qu'on ne choisit pas toujours son corps, et nombreux sont ceux qui se trouvent mal dans leur peau, parfois au point que cela devienne invivable. Chirurgie esthétique, tatouage, musculation, régime d'enfer et même rééducation en cas d'accident, tous les moyens sont bons pour se réconcilier avec son enveloppe corporelle et devenir enfin soi-même. J'ai souvent perçu que derrière ces tentatives de transformation physique se cachait une véritable recherche d'identité. Mais jusqu'où peut-on aller pour changer son propre regard et celui des autres ? Et qui sont ces femmes et ces hommes qui se battent pour reconquérir un physique qui leur était devenu insupportable ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Bruno. Sa vie a basculé après qu'il a frôlé la mort. Il pesait alors 320 kilos. Je suis Olivier Delacroix. Bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Bruno est soigné dans cette clinique qui accueille exclusivement des personnes obèses.
Bonjour Bruno.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Ça va.
En pleine lecture?
De temps en temps.
De temps en temps?
Oui.
Cet ex-chef d'entreprise de 49 ans a depuis son enfance tendance à prendre du poids s'il ne surveille pas son alimentation. Mais son obésité morbide remonte au début des années 2000. Sa femme le quitte et part s'installer avec son fils dans la région de Marseille. Pour se rapprocher de lui, Bruno déménage. Mais cette rupture est un choc qui va le faire plonger progressivement dans la dépression.
J'ai pas assumé. C'était trop.
Vous n'envisagez pas la vie sans les vôtres, en fait?
Oui, sans elle, je vais le dire, oui.
Vous étiez très amoureux?
Oui, très. Ah, oui. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal à cette époque-là. Mais bon, avec le recul maintenant, je m'aperçois que on avait des sentiments l'un pour l'autre quand on s'est connus pendant pas mal d'années, et après elle les a plus. Mm-hmm. Pour X raisons qui sont personnelles.
Mm-hmm. Alors que vous, ces sentiments étaient toujours là.
Tout à fait.
Lorsque vous dites je me suis retrouvé du jour au lendemain dans l'inconnu,
ouais.
Vous faites allusion à quoi ? À la perte des vôtres et le fait de se retrouver seul ?
Pendant des mois, j'ai pas eu mon fils, ce qui m'a beaucoup perturbé et sûrement qui a été aussi encore une autre raison pour laquelle j'ai dû encore grossir. Mm-hmm. Et au même moment, en plus, j'ai arrêté l'entreprise. Donc.
D'accord.
Ça faisait beaucoup d'un coup. Uh-huh. Ouais.
Vous avez déposé le bilan?
Ouais. Donc, c'était encore un facteur de stress supplémentaire. Uh-huh. Là, je suis tombé en dépression à ce moment-là.
Et lorsqu'on est en dépression, on
s'en enferme. Hein.
On s'en enferme.
Et on continue le processus de grossir. Uh-huh. Ça n'arrête jamais, ce truc-là. J'ai compensé sur l'alimentation, manger peut-être irraisonnablement, surtout boire beaucoup de boissons irraisonnablement. C'était, 3 bouteilles d'un litre et demi par jour, très facilement. Et je ne m'en rendais pas compte, surtout. Donc, que ça avait un effet très pervers sur moi, disons.
Ça a continué combien de temps, en fait
4-5 ans de plus.
4-5 ans de plus.
Moi, peut-être même 6, je ne sais pas, je peux trop m'en compter, disons.
Qu'est-ce qui a provoqué, un jour, le fait que vous ne bougiez plus de chez vous?
Tout à fait. Mais c'est venu d'une chose tout bête, c'est que j'ai changé d'appartement. Mmh. Et cet appartement était situé au deuxième étage d'une maison toulousaine ascienne.
Ouais.
Et pas d'ascenseur et un escalier pas très large. Je ne pouvais plus sortir de chez moi parce que tout simplement le poids m'en empêchait. Et ça engendrait pas mal de complications très rapidement. Et bien, inactivité, continuer à manger. Et après, c'est un truc où c'est un cercle vicieux.
Combien vous pesiez là, à ce moment-là?
À ce moment-là, où je devais faire bien 200 facile. J'avais fait une demande d'aide à domicile.
Ouais.
Et qui m'avait été accordée. Donc c'est encore un facteur qui a aggravé aussi mon obésité. Ça fait que je bougeais encore moins. Et je suis arrivé à un moment où je ne pouvais même plus aller sur mon lit.
Mais personne autour de vous ne vous dit « Bruno, tu es en train de prendre du poids
». On peut dire « tu es des connes », non.
Ouais. Personne ?
Personne.
Et vous aviez bien un médecin ?
Oui. Il m'a dit « je suis incompétent dans votre situation. C'est vachement dur à entendre. De se dire, la seule personne qui peut vous aider, ben elle est incompétente.
Jusqu'à ce que vous arriviez au poids de 320 kilos, ok.
C'était viable. Par exemple, j'avais le ventre qui, je sais pas, mettait 150 kilos sur vos deux jambes. Eh bien, vous n'allez plus pouvoir les bouger, plus pouvoir marcher, plus pouvoir vous lever. Ou alors vous levez, mais pour les toilettes, mais c'était qui était à 10 mètres, le bout du monde pour moi. Voilà.
On peut dire que vous êtes en danger de mort.
Je l'étais sans le savoir.
Vous
sans m'en rendre compte.
Sans le savoir.
Sans m'en rendre compte. Oui.
Fini par prendre.
Oui.
Et qui est le parcours de la victoire. C'est une première pour vous en plus. Là.
Oui, c'est une première. Le premier essai d'un banc à bout de goût.
D'accord. Vous voulez que je vous aide?
Non, ça va aller. Et je prends juste ma canne.
Votre canne.
Je remets ma petite écharpe. Yup. Allez, on va voir ce que ça donne. Yup. C'est la terre est basse d'un coup. Mais on est bien assis.
On est pas mal là, non?
Oui.
Hein?
Oui, on est bien assis.
Vous êtes devenu frileux?
Oui.
Oui?
Avec la perte de poids.
Avec la perte de poids?
Eh bien, quand on fait 320 kilos, on a toujours chaud. Et donc, c'était été comme hiver, t-shirt. Et il fallait être grande ouverte. Voilà.
En septembre 2012, Bruno ne peut plus se lever de son lit. Il ne peut plus dormir. Il a du mal à respirer. Jusqu'au jour où il va avoir une véritable prise de conscience. Bruno ne supporte plus l'homme qu'il est devenu.
Je ne pouvais plus me bouger du tout. Je ne pouvais même plus aller aux toilettes. L'obésité est arrivée à un point où le fait de manger était de me tuer un petit peu tous les jours. Ouais. C'est vrai qu'il a fallu accepter ça pour que je puisse attaquer mon parcours. D'accepter que je puisse changer. Et là-dessus, c'est que j'ai fait une chose qui vraiment fait le déclic, c'est que je demande à boire, à manger, à mon fils. Et ça, j'ai pas pu l'accepter. Là, je reconnais que plus que le fait de mourir, ça m'a révolté, disons.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites?
J'appelle le médecin, j'en parle. Il me dit, je vais vous faire venir des brancardiers pour vous emmener à l'hôpital et tout. Et donc ils arrivent chez moi. Et le monsieur, au bout d'un petit moment, il me fait. C'est la première fois que en X années que j'ai cette activité, et bien que je vais baisser les bras, que je ne peux pas vous sortir de chez vous. J'ai pas le moyen. Je ne sais pas comment me faire. Donc j'en discute avec eux un petit peu, il me dit nous on ne sait pas, par la fenêtre ça passe pas, par la cage d'escalier ça passe pas. Moi, j'ai bien une idée, je leur ai dit. Parce que j'avais quand même aussi réfléchi, quand même. Je lui ai dit, on fait un grand trou dans la façade et on le fait par là. Ils ont mis un échafaudage, ils ont fait le trou dans la façade. Les pompiers sont venus. La police est venue parce qu'il fallait aussi bloquer la rue. Ils ont fait venir une grue. Il fallait quelque chose aussi qui lève 350 kilos. Et ils m'ont descendu avec des pompiers en rappel à côté de moi pour me rassurer. Parce que j'étais dans le. Je ne maîtrisais rien là, à ce moment-là.
Oui.
Voilà.
Donc, vous vous retrouvez dans les airs.
Ouais. Et le SAMU qui m'attend en bas. Avec une ambulance aussi spéciale.
Ouais.
Qui est. Il n'y en a qu'une, je crois, dans la région. Qui est pour les gens, justement, hors normes.
Ouais.
Et là, en partance pour l'hôpital de l'arrêt.
D'accord.
Où j'arrive, où je vois dans les yeux des soignants que. Il y a un truc qui ne va pas. Déjà, le lit pas adapté, la chambre pas adaptée, rien d'adapté, parce que c'était la première fois qu'ils avaient un patient aussi corpulent, on va dire. Après, par contre, c'était aussi pas une bonne période. Quand on devait me faire la toilette, par exemple, à l'hôpital de l'arrêt, il me fallait 12 personnes.
12 personnes?
Ouais. Juste pour pouvoir me mettre sur le côté, sur l'autre côté. Il fallait 12 personnes pour me changer les draps, ce genre de choses.
Pendant 15 jours, on s'occupe de vous, donc on...
De mes problèmes respiratoires et d'essayer tout simplement de me... Maintenant, je le sais. Mais avant, je ne m'en étais même pas rendu compte, on essayait de me sauver la vie.
On vous la sauve, là, carrément.
Ah, mais ils ont réussi, justement.
Un mois plus tard, Bruno est hospitalisé dans cette clinique spécialisée. Là, il est pris en charge par une équipe de médecins et de nutritionnistes. Tous, ici, se souviennent de son arrivée très remarquée.
Les gens qui le voient aujourd'hui ne se rendent pas compte comment il est arrivé chez nous. Mmh. Moi, j'avais entendu une histoire dans les journaux, un fait divers. On avait sorti quelqu'un par la fenêtre de l'immeuble. Et je ne m'attendais pas à trouver un personnage comme Bruno, en fait. Je m'attendais à trouver quelqu'un de beaucoup moins structuré, de plus en marge de la société.
D'accord.
Et quand j'ai vu Bruno, je me suis dit, finalement, c'est monsieur tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Mmh. C'est choquant de voir que c'est notre reflet, en fait. Mmh. Quelqu'un qui était tout à fait... qui avait un travail, qui avait une famille, qui avait quelqu'un d'intégré dans la société, et qu'il ne l'était plus par son espèce d'abandon, là, de son corps. C'était...
Je vous entendais, docteur, parler de se réapproprier son corps. Comment on amène quelqu'un à reprendre conscience qu'il a un corps et à y faire attention à ce corps ?
Il n'y a pas de mot ou de phrase qui peut expliquer, en fait. Hein. Ça, c'est quelque chose où on doit réapprendre à être avec soi, réapprendre à s'écouter. Et petit à petit, les choses se font. Après, il y a des exercices. Hein. On peut se concentrer sur le corps, sur nos sensations, pour essayer de se le réapproprier. Mais c'est une démarche plus liée au respect de soi-même, en fait. Mmh. Là.
Il y avait une telle détresse chez lui, à la fois physique et morale, que pour toute l'équipe, ça a été... Oui, je pense que tout le monde l'a pris pour soi, en se disant, je vais faire quelque chose, moi, à mon niveau, pour qu'il aille mieux. Hein.
Après la réunion, en route pour une petite balade traditionnelle avec Gérard, le kiné.
Donc c'est maintenant qu'on va faire une autre petite...
On va changer de rôle. C'est-à-dire que c'est moi qui vais dans le fauteuil et c'est lui qui pousse.
Ah bon ?
Oui.
Et c'est ce qu'on fait ?
Ah oui ?
C'est un exercice que vous faites ?
Ah oui. On a mis ça au poids tous les deux.
Exercice de musculation.
Voilà. Ça m'a appris à marcher facilement.
Allons-y alors.
Voilà. Ça, c'est déjà arrivé.
Pour Bruno, vu son état physique, l'exercice le plus complet reste la marche.
Ça a dû surprendre vos collègues au début de...
Un petit peu, oui.
De pouvoir dans le fauteuil.
Des patients aussi.
Oui, des patients aussi.
Ah ouais. Bon, au début, il n'allait pas aussi vite quand même.
Ah ouais, au début, j'allais pas aussi vite et je m'arrêtais tous les 10 mètres.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui, des fois même pas.
Même pas, oui, des fois.
Parce que d'un point de vue respiratoire, il n'était pas...
Ah ouais, j'arrivais pas.
Votre rôle à vous, donc, ça a été de le faire travailler petit à petit, chacun de ses...
Oui, chaque muscle, chaque articulation, muscle. Remettre tout en route. Et puis après, canaliser sa progression dans son retour à la fonction, en fait.
La fois où vous êtes allé au bout de ce chemin, c'était l'exploit.
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais.
Un exploit. Car quand Bruno arrive à la clinique, il ne peut même plus bouger un doigt de pied. Après des séances de musculation quotidiennes, Bruno a pu recommencer petit à petit à bouger ses bras, puis ses jambes.
Bien déroulé, le talon et la pointe. Voilà.
Des moments en forme de victoire sur lui-même qui le submergent de joie.
Et un grand moment que j'ai eu, que je me souviens de toute ma vie, c'est la première fois où une infirmière m'a amené dehors. Et il faisait beau. Et il y a eu une petite brise qui m'est passée sur le visage. Et je vous jure, je m'en rappelle encore. Se rappeler d'une brise, quand même, c'est trop fort.
Ouais.
Ça faisait 3 ans que je n'étais pas sorti.
Ça, en fait, ça aide à soulager toute cette partie-là.
Donc, en fait, c'est un système qui permet de reproduire la gravité.
Oui.
Donc, en fait, on peut enlever autant de pourcentage de poids du corps qu'on veut.
D'accord.
On peut enlever jusqu'à 80% du poids du corps.
En fait, les cours de sport ont commencé dans le lit.
Ils ont même duré longtemps dans le lit.
Ouais.
Ah oui, ils ont duré 6-7 mois, non ?
6-7 mois.
Ouais.
C'était une première. Il a fallu vraiment quasiment tout inventer. Quoi.
Tout inventer, ouais.
Pour pouvoir travailler avec monsieur, on a eu normalement une installation de rails pour la mobilisation au plafond,
ouais.
Pour bouger, pour attraper un objet, pour se retourner.
Donc, plutôt les bras, les mains.
Voilà, bras, mains, épaules.
Épaules.
Et puis progressivement, on a essayé de se redresser, on est passé assis, debout. Et après, c'était. C'est parti.
Au bout d'un an, vous aviez perdu combien de kilos ?
140, je crois, un truc comme ça.
140.
Ouais.
Aujourd'hui, vous êtes à
156
kilos, c'est quand
j'ai
même énorme.
J'ai perdu quasiment 2 oliviers.
De Olivier. Ouais, non, à peu près ça.
Ouais.
Oui, oui, de Olivier. Vous avez l'œil, hein.
Le sport n'est qu'une partie du programme de la clinique. Un autre domaine est primordial, c'est l'alimentation.
Pour ce cours de cuisine, au moment du goûter, on va donc faire un café gourmand.
Ici, Bruno n'est pas au régime à proprement parler, mais réapprend à manger sain et équilibré.
On leur apprend la théorie, la mise en pratique de la théorie à travers ces ateliers de cuisine. Effectivement, de voir qu'on n'est pas dans les régimes grillés-vapeur où tout est à l'eau. On peut faire des choses sympas, mais diététiques.
Et ici, j'ai appris une chose toute bête, c'est qu'il faut manger pour maigrir.
Il faut manger pour maigrir.
Ouais. Mmh. Mais il faut bien manger, c'est tout.
Donc, en fait, on peut manger des féculents tous les jours?
À tous les repas.
À tous les repas.
C'est même conseillé.
Ah oui, carrément. Mmh. Okay.
Donc, on se fait plaisir et ça reste dans le cadre du régime hypocalorique qui permet de manger moins de calories et donc d'aller puiser dans les réserves.
D'accord.
C'est comme ça qu'on perd du poids.
D'accord. Vous avez eu faim par moment ici?
Jamais.
Jamais. Depuis que vous êtes arrivé?
Ouais, c'est vraiment incroyable, mais c'est jamais.
Pour reconquérir son corps, Bruno suit des cours. Mais il faut aussi qu'il comprenne ce qu'il a amené dans ses mécanismes d'autodestruction. Les séances de psychothérapie de groupe aident à identifier bon nombre de problèmes.
Alors merci à tous de venir. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous voir un petit peu avec vous le domaine de l'affectif, affectif et troubles des conduites alimentaires. Comment peut-on être prisonnier de ses addictions alors qu'on veut être libre en définitive, hein ? Comment peut-on aimer un corps qui n'est pas ce que je voudrais être ou bien ce que j'étais aussi, hein. Parce que c'est pas la
peine. Avec de l'accompagnement et de la parole, petit à petit Bruno a pu discuter et mettre des mots sur sa souffrance.
On est un peu dans la violence contre soi parce que on a quand même grossi, votre corps il vous plaît pas, vous faites un combat contre quelque chose que vous avez acquis mais que vous rejetez.
Oui, c'est un conflit entre soi et soi.
Ouais.
Ouais, ouais. Est-ce que toutes ces victoires, en fait, c'est aussi retrouver une estime de soi?
Je vais avouer quelque chose que j'ai du mal à m'avouer moi-même. On se rend fier de soi-même quand on fait des petites victoires comme ça. Mmh. Je reconnais que ça nous fait remonter notre estime personnelle, disons, à nous. Quand on a fait une évolution flagrante, disons, le soir, on s'endort bien et paisiblement, vous voyez. Et le fait de bien dormir, c'est aussi un facteur pour perdre du poids. Le fait de ne pas dormir, il faut savoir que ça entraîne aussi une prise de poids.
Ici, est-ce que vous avez réappris à avoir envie de vivre?
Oui.
Ouais.
Le fait de parler d'obésité, que les gens qui sont dans ce cas-là aient conscience qu'il ne faut pas rester à la maison et s'enfermer et ne plus parler à personne. Parce que c'est un cercle vicieux et jamais ils s'en sortiront. S'il ne faut pas partager ces choses-là, il faut appeler au secours quelqu'un, n'importe qui. Mais il faut vraiment appeler quelqu'un, n'importe qui.
Vous avez pris conscience petit à petit donc de reprendre votre vie en main ?
Reprendre vie, tout simplement.
Reprendre vie.
Avant de prendre ma vie en main, reprendre vie, tout simplement. Mmh. Oui.
Désormais, les efforts de Bruno ne suffisent plus à lui faire perdre du poids. Pour se débarrasser encore des kilos superflus qui l'handicapent, il va devoir subir une abdominoplastie.
On va m'enlever la partie de moi qui est, pour moi, pas à moi. C'est-à-dire que je vais peut-être un petit peu redevenir moi-même, disons. Mmh.
Quels sont les risques, en fait, lors de cette opération?
La mort.
La mort?
Ouais. Mmh. Mais... on ne peut pas vivre, continuer à vivre comme ça, dire. Mmh. Si on a fait tellement d'efforts que c'est, comme vous dites, le but à atteindre pour revivre. Donc le risque est acceptable, on va dire. Voilà.
Après cette opération, en fait, vous devriez atteindre quel poids?
Alors, après la chirurgie, je pense que ce sera vers les 110 kilos. La clinique aimerait que je sois vers les 100-110.
Ouais.
Et mon objectif personnel est 90.
90.
Et j'arriverai à 90.
Ouais.
Ah oui. Clair et net.
Si cette opération marche, si tout roule, comme vous le souhaitez, le Bruno de demain, il ressemblera à quoi?
à rien de ce qu'elle a ressemblé jusqu'à présent, de toute manière. Et le poids et la rééducation m'aura changé fondamentalement en profondeur, on va dire. Je voudrais me servir de un petit peu cette expérience douloureuse pour aider un maximum de gens qui sont ou qui ils seront ou qui ont été dans mon cas, disons. C'est vrai que j'aimerais bien monter une association pour aider les gens en sortie de parcours. Les conseiller, c'est un grand mot, mais au moins les écouter, disons.
D'accord. Levons-nous, mon cher Bruno.
Quelque chose que je ne pouvais pas faire.
Je souhaitais vous dire au revoir.
Ouais.
Debout, parce que c'est quelque chose que je sais que vous ne pouviez pas faire il y a encore quelques semaines.
Oui.
Et voilà, c'est l'aboutissement de ce chemin.
Voilà.
En tout cas, portez-vous bien. Bon courage pour l'opération. Et puis, vous me tenez au courant quand même. Hein,
oui.
Après tout ça.
Une petite photo avant et après, peut-être.
Oui.
Ouais, je ferai ça.
Au revoir.
Au revoir.
En quittant Bruno, j'ai l'impression d'avoir passé ces quelques jours avec un rescapé de la vie. Un homme qui m'aura lui aussi montré combien la volonté peut nous amener à nous dépasser. Bruno pesait 320 kilos et la barre des 90 kilos, je suis convaincu qu'il va y arriver. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.